Tendance première.
Bonjour Damien Vanacter.
Bonjour.
On va donc parler d'activisme numérique avec vous. Activisme, ben c'est quoi finalement? Parce qu'on entend souvent parler de hacker par-ci, de hacker par-là. C'est quoi un hacker?
Mais un hacker, c'est quelqu'un qui observe la société dans laquelle il vit et il essaye de repérer les failles, c'est-à-dire les endroits où ça marche pas super bien, et il essaye d'apporter des débuts de solutions. C'est la version optimiste du hacker. On sait très bien qu'il y a aussi des hackers qui essayent de s'enrichir à des fins personnelles en utilisant la technologie pour détourner les systèmes actuels. Moi, je préfère la version positive qui est celle de d'une recherche de sens et d'apporter des débuts de solutions. Et l'activisme démocratique, ce sont des gens qui utilisent les nouvelles technologies pour essayer de faire valoir les droits et libertés de tout un chacun en ligne.
Je pense qu'il y a 10 000 manières de faire valoir sa liberté d'expression, alors du coup.
Ah oui, il y en a plein. Et c'est vrai qu'en ces temps troublés, on va dire, de fake news, en ces moments de flux d'informations continus, on est souvent noyé entre le vrai, le faux, la parodie, la satire. C'est compliqué de faire le tri dans tout ça. Et moi, j'avais envie d'épingler deux façons d'avoir un impact en ligne qui ont été révélées ces dernières semaines et ces derniers mois, dont une très présente. Mais il y en avait une que j'avais vraiment envie de pointer du doigt, qui est en route depuis déjà une bonne petite, je pense que c'est une bonne petite année.
Mais allez,
ça s'appelle les Sleeping Giants.
Les quoi?
Les Sleeping Giants, ce sont les géants endormis.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est d'ailleurs le titre d'un film. C'est un collectif d'hackers, de gens qui sont plutôt technologie friendly, si je puis dire ça comme ça. C'est des gens qui s'y connaissent en informatique. C'est des gens qui savent comment utiliser les réseaux sociaux et qui vont utiliser notamment Twitter pour faire en sorte de surveiller les publicités qui sont diffusées sur des sites d'extrême droite. Par exemple, le site Breitbart aux États-Unis. On sait que ce site a eu et continue à avoir un volume de publications très importante pour relayer la parole d'extrême droite, voire même la créer, l'amplifier et diffuser toute une série de publications nauséabondes, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que fait ce collectif? Ils ont lancé une campagne, et eux-mêmes la titrent comme ça, contre la bigoterie et le sexisme pour les rendre moins profitables. Pourquoi? Parce que la publicité en ligne aujourd'hui, elle est automatique. Elle est très fort axée sur l'intelligence artificielle, qui fait en sorte que puisque nous sommes traqués, puisque tous nos profils publics sont utilisés par les publicitaires pour nous mettre de la publicité, un site comme Breitbart, par exemple, reçoit de la publicité, des annonceurs diffusent de la publicité sur ce site de manière automatique.
Et sans qu'ils le sachent.
Même souvent sans le savoir.
Oui, c'est ça, sachent qu'ils sont en train de faire de la pub sur un site d'extrême droite.
Oui, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que quand des visiteurs de ces sites-là cliquent sur ces panières publicitaires, ils enrichissent le site et donc ils contribuent quelque part à la propagation de toutes ces informations-là. Ouais. Donc ce collectif s'est dit, on va taper là où ça fait mal, donc dans le portefeuille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis en ligne une liste d'annonceurs qui mettent des publicités sur le site de Breitbart et ils encouragent les internautes à faire des copies d'écran, tout simplement, des pages qu'ils visitent sur le site de Breitbart, sur d'autres sites aussi, mais sur celui-là en particulier, et à faire ce qu'on appelle du public shaming, c'est-à-dire on va ouvertement et publiquement interpeller la marque en lui disant « Eh oh, tu sais que t'es en train de faire de la publicité sur ce site-là et que t'es en train d'enrichir des gens qui diffusent des informations et la haine et du racisme. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a plus de...
Non, continue, après je vous poserai la question.
Il y a déjà 4000 marques qui ont été interpellées de cette manière-là, qui ont publiquement réagi et dit « Ok, on va arrêter de faire de la publicité sur ce site-là ». Et j'ai été faire ma petite enquête, j'ai été voir dans la liste, puisqu'elle est publique, et on retrouve par exemple le portail belgium.be.
Mais non.
On retrouve des sites comme des annonceurs comme Actiris, Electrabel, Proximus, Adeco, Toyota. Je les cite tous comme ça, je fais pas de la publicité. Mais l'idée derrière ça, c'est de se rendre compte que chez nous aussi, on a des annonceurs qui, même parfois sans le savoir, publient des annonces sur des sites de ce genre-là et contribuent à enrichir des sites de ce style-là. Et les marques que je viens de citer ont annoncé qu'elles allaient arrêter.
C'était la question que j'allais vous poser, Damien, parce que c'est une découverte pour moi de savoir que les publicités sont à ce point gérées par les réseaux, des algorithmes, etc. Et donc que les marques n'ont même pas de contrôle sur leur propre publicité. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, alors que pendant des années, il y avait des services qui réfléchissaient à où placer une publicité en fonction de telle audience, en fonction de telle programme, etc. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui les marques soient dépossédées finalement de ce choix?
Alors, elles en sont dépossédées, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les régies publicitaires peuvent faire des listes de sites où elles acceptent que la publicité soit soit diffusée. C'est ce qu'on appelle du planning média. Mmh. On définit un certain nombre de sites avec une audience qui est ciblée pour pouvoir aller toucher les personnes susceptibles d'acheter tel ou tel produit ou tel service. Il se fait que ces listes-là sont régulièrement mises à jour, et là, l'annonceur a la main. C'est pour ça que, dans ce cas-ci, l'annonceur peut dire, en donné, ou je viens de me prendre un coup de bad buzz parce que toute une série de gens m'ont alerté que mon site fait de la publicité sur Breitbart, par exemple. Ouais. Je vais réagir parce que sinon, c'est ma marque qui est mise en danger, et donc j'exclus. Et ça, ils peuvent le faire, ils le font à la main, ils peuvent le faire, et toutes les régies le proposent. Ils peuvent dire, voilà, je ne veux plus que ma publicité soit diffusée sur tel site. Mmh. C'est une forme d'activisme très puissant parce que ça fait appel au portefeuille, et donc ça tape là où ça fait mal.
Donc ça veut dire, Damien Van Acter, si je vais voir sur le site de Sleeping Giants, et je peux voir exactement toutes les publicités qui sont mises en ligne, entre autres sur ces réseaux d'extrême droite. Donc j'ai la liste de tous les annonceurs.
Tout à fait. On a la liste de tous les annonceurs. On a la liste aussi de tous les annonceurs qui ont déclaré publiquement arrêter de ces pratiques publicitaires-là.
Il y a qui, par exemple, comme gros annonceur qui a déclaré publiquement qu'il se retirait ?
Oh, il y en a 4000, donc j'en ai cité quelques-uns qui viennent de Belgique, mais il y en a toute une série. C'est surtout des agences de voyage, c'est de l'intérim, c'est toute une série de services aussi où on vend des produits, des montres, des etc. etc. On peut vraiment en prendre plein. Il y en a des pas très connus, mais il y en a surtout quelques-uns qui sont vraiment très très connus. Les aéroports de Paris, par exemple, qui avaient vraiment tout intérêt à arrêter de le faire. Ouais. On sait aussi que Breitbart est en train de mettre en place son système de publication pour l'Europe. On sait que Steve Bannon, qui est à l'origine de ce site-là aux États-Unis, est en train d'importer en Europe, en vue des élections européennes, le même genre de publication avec une volonté très nette et très claire d'avoir une influence sur les élections européennes de mai prochain. Donc les annonceurs belges, il y a toute une série de comptes Twitter qui sont liés aux Sleeping Giants américains. Il y a déjà un compte en Belgique, il y a des comptes en France, il y a des comptes un peu partout en Europe. Ils sont très vigilants et nul doute qu'ils resteront à l'affût de ce qui va se passer pour les prochaines élections européennes.
Soyons donc vigilants en allant jeter un œil sur Sleeping Giants. Autre initiative dont vous vouliez parler aujourd'hui, Damien.
Oui, c'est dans le cadre d'une affaire assez récente qui s'appelle Infowars. C'est là aussi un site complotiste qui est tenu par un monsieur qui s'appelle Alex Jones. C'est un gros site. Ils font beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles qui sont. Il faut vraiment se pincer le nez quand on va lire et quand on va regarder tout ça. Ah oui, ça tape vraiment à l'extrême droite. Et il y a quelques jours. Plusieurs plateformes comme Apple, Facebook, YouTube, Spotify, même Pinterest ont décidé de supprimer, de censurer tout simplement les contenus de ce site-là pour des raisons de violation de conditions générales de leurs utilisations. Grosso modo, ils font de la censure parce qu'ils estiment que les contenus sont vraiment puants. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Sauf que Twitter a décidé, lui, de conserver les comptes officiels de Alex Jones, le fondateur de ce site-là et d'Infowars, en disant, nous, on respecte la liberté d'expression. Si on le censure, on risque, est-ce qu'il faut censurer les racistes et les xénophobes? C'est un vieux débat. Mais il se fait que dans la foulée de cette interdiction-là, il y a pas mal d'activistes qui ont réagi, qui ont décidé d'interpeller Twitter. Là aussi, où ça fait mal, avec un truc très très malin. Tout simplement en faisant une liste. Dans Twitter, on peut faire des listes de comptes pour suivre tout ce que ces comptes racontent. Et Shannon Coulter, qui est une activiste qui a cofondé en 2016 une organisation qui s'appelle Grab Your Wallet, en gros, attrapez votre portefeuille, et qui a décidé de faire une liste avec tous les comptes des 500 plus grosses compagnies américaines du magazine Fortune 500. Et elle a fait une liste et elle a dit, moi j'ai décidé que tant que Twitter ne retirait pas Alex Jones de sa plateforme, eh bien moi je bloquais tout simplement ces compagnies-là, c'est-à-dire que je ne les écoute plus. Et dans un système tel qu'il est aujourd'hui connu avec Internet, où la conversation est quelque chose qui est, quelque part, c'est une hiérarchie assez plane, une adresse IP, c'est une adresse IP, chacun a le droit de s'exprimer. Et le fait de dire, j'arrête de t'écouter, en gros, ça envoie le message à Twitter en disant, tes annonceurs, eh bien, je ne vais plus voir leur message, donc toi, tu vas arrêter de te faire de l'argent. Et il y a plus de 70 000 personnes qui ont suivi le mouvement, qui ont dit, moi, je vais reprendre la liste de Anne Coulter et je vais moi aussi bloquer tous ces annonceurs là. Et ça, ça fait mal, parce que évidemment, quand on est un gros annonceur et qu'on sait que nos messages publicitaires ne sont plus écoutés, bah on décide de plus mettre d'argent, et donc Twitter risque de se retrouver à un moment donné avec des gros comptes qui arrêtent de faire de la publicité chez eux. C'est
Damien,
très malin.
Damien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette Shannon Coulter, dont j'entends parler pour la première fois en ce qui me concerne, peut-être qu'elle est très connue hein, dans le milieu du numérique, mais moi c'est la première fois que j'entends parler, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a 71 000 personnes qui la suivent? Comment est-ce qu'elle est parvenue à amener 71 000 personnes à suivre voilà, ses recommandations?
Mais c'est un peu comme pour tout, hein. Les bonnes et les mauvaises idées, elles circulent beaucoup. Et moi, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que aujourd'hui, on a tendance à voir émerger et à faire attention à tous les messages qui sont négatifs, à toutes les campagnes de discrimination. Quand on est vraiment vigilant à ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, on peut vraiment se boucher le nez à longueur de journée. Mm-hmm. Moi, je choisis plutôt d'essayer de jeter un coup de projecteur sur des trucs qui sont enthousiasmants et qui donnent du sens et qui permettent d'élever un petit peu le débat. Et ben, c'est typiquement ce qui s'est passé avec Shannon Coulter. Elle a fait une proposition, elle a écrit un petit article sur son blog, et puis il y a des gens qui l'ont relayé, et puis d'autres gens qui l'ont relayé. L'effet boule de neige s'est mis en route, et visiblement pas mal de gens ont décidé et ont trouvé que c'était plutôt une bonne initiative.
Alors ça, ce sont deux exemples d'activisme à l'étranger. Chez nous, est-ce que vous avez un exemple à mettre en avant peut-être, Damien, rapidement?
Alors, oui, il y a vraiment plein d'initiatives qui existent. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller faire un tour sur Bellvox, sur Cumuléo. On en parle parfois sur la première aussi, de ces sites qui regardent comment nos politiciens agissent, comment les marques agissent aussi. Il y a plein d'initiatives de ce genre-là, et on peut transposer quelque part ces idées-là et ces processus-là qui, techniquement parlant, sont vraiment pas compliqués. Mais c'est une forme d'activisme où chacun est responsable de ses propres petites activités. Ça commence par là. C'est le changement, c'est chacun un petit peu tous les jours. Donc on pourrait imaginer avoir exactement le même genre de démarche qui se fasse chez nous, que ce soit avec des marques ou que ce soit avec des politiques d'ailleurs. Mmh. On pourrait très bien faire des listes de politiques en disant, bah, tant que vous ne nous écoutez pas, tant que vous ne décidez pas de prendre par exemple une ligne claire par rapport à un sujet, par rapport à un autre, eh bien nous allons vous bloquer sur Twitter, nous n'allons plus vous écouter et vous parlerez tout seul.
On voit ça moins, j'ai l'impression en tout cas, dans nos pays.
Oui, parce que Twitter est quand même une plateforme très anglophone. La majorité des utilisateurs de Twitter est anglophone. Et c'est vrai que Twitter est quand même un microcosme hein, par rapport à Facebook. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Twitter, on est à 300, 400 millions. C'est beaucoup moins. Et c'est un petit peu le poteau médiatico-politique qui agit et qui interagit beaucoup sur Twitter. Mais quand on s'y prête et quand on met un œil dessus, on se rend compte qu'il y a parfois des interactions qui sont très intéressantes. Les politiques répondent. Les marques répondent. C'est un service après-vente très intéressant pour eux parce que tout ça est public. Et donc, ça laisse des traces et on peut leur ressortir ça sous le nez en temps voulu, en campagne électorale, par exemple.
Merci beaucoup, Damien Van Acter, merci pour toutes ces infos. Cette chronique, vous pouvez bien entendu l'entendre ou la réécouter sur Ovio.